Quand la barque de Saint-Pierre ne pousse plus les voiles dans le sens où on voudrait aller un peu paresseusement, alors chacun entend « tais-toi et rame ». Alexémode, bonjour. En observant un petit peu ce qu'il advient des jeunes qui ont une trentaine d'années maintenant, qui pourraient être des candidats au mariage, on est un peu contraint d'avoir un regard de tristesse en s'apercevant que 6 baptisés sur 7 ne demandent pas à l'Église de les accueillir pour le mariage. Qu'est-ce que ça appelle comme remarque pour vous ?
Pour nous, c'est clair qu'il y a une, je dirais que ça montre qu'il y a une vraie difficulté par rapport au mariage chrétien, en tout cas, et que cette difficulté n'est pas due au problème du mariage, elle est due au problème de la foi. C'est-à-dire, comme disait Benoît XVI, il y a d'abord une crise de foi qui, du coup, met à mal le mariage. Parce que se marier aujourd'hui sacramentalement, se marier à l'Église, ça a du sens si on est chrétien vraiment, je dirais, pratiquant, actif, qu'on nourrit sa relation avec Jésus, que le Christ est présent dans notre vie. Si c'est juste un marqueur social, de fait, le mariage apparaît plus comme un rite religieux, certes, mais qui n'a pas beaucoup d'effet et qui est juste là pour faire plaisir dans une belle cérémonie. Donc effectivement, que ce soit déserté, ça ne nous étonne pas. C'est même plutôt un bon signe, parce que ça montre que seuls ceux qui ont compris vraiment ce que c'était aujourd'hui se marient à l'Église.
Donc les 6 sur 7 ne sont plus chrétiens, quelque part ?
Bah, quelque part, ils ne sont pas chrétiens dans le sens qu'ils sont baptisés, mais peut-être qu'ils n'ont pas de relation personnelle avec Dieu. Et de fait, qu'est-ce que c'est qu'être chrétien si c'est juste appartenir à un club ? C'est pas la question.
C'était le cardinal Etchegaray qui disait en 2000 pour le jubilé des familles, mais celui qui croit que le sacrement de mariage, c'est un mariage civil saupoudré de quelques valeurs chrétiennes et de quelques rites religieux, il n'a strictement rien compris au mariage. C'est pas suffisant, il n'a rien compris. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup, même de jeunes qui se préparent au mariage, donc ils demandent, qui rentrent dans les 1 sur 7, donc ils demandent le mariage à l'Église, même pour beaucoup de ces jeunes, ils vivent ça essentiellement comme une sacralisation d'un moment important de leur vie. Et c'est saupoudré un engagement de mariage humain par quelques rites religieux. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une très grande difficulté pour les personnes, pour les jeunes, et pour saisir ce qu'est le sacrement de mariage. Et donc la question liée au sacrement de mariage est liée par rapport à la foi. Mais il y a une deuxième chose aussi qui est très importante. C'est qu'il y a une crise en tant que telle du mariage, ne serait-ce qu'humain. Vous avez cité une statistique, je vais vous en citer une autre. Les projections que font les sociologues aujourd'hui, c'est que 8 à 9 couples sérieux qui se mettent ensemble aujourd'hui, alors, qui dit Pâques, qui dit mariage, enfin, vraiment qu'il y a un vrai projet de vie, de fidélité, de durée, d'enfants, etc., 8 à 9 couples sur 10 ne finiront pas leur vie ensemble. Est-ce que vous croyez que ces gens-là disent « Oh, c'est pas grave, je changerai de personne, etc. » Non. Aujourd'hui, réussir sa vie conjugale, c'est la chose la plus importante dans le cœur de nos contemporains. Toutes les enquêtes le montrent. Que c'est quelque chose qui est partagé de manière universelle. Un homme, une femme, qu'ils aient des enfants, qu'ils soient fidèles, qu'ils soient épanouis dans leur sexualité, etc. C'est quelque chose qui... C'est un marqueur identitaire pour le fait qu'on soit homme et qu'on soit femme. Donc, c'est vrai que c'est un grand paradoxe aujourd'hui. Pourquoi ce à quoi les gens aspirent le plus profondément, qui est vraiment leur chemin de bonheur, pourquoi c'est si difficile? Pourquoi finalement ça va solder très majoritairement par un échec?
RCF, un regard chrétien sur le monde.
Si le mariage chrétien est en cause, et largement, pour fête d'incroyance généralisée, j'exagère un peu, mais enfin c'est un peu dans cette direction-là qu'on se trouve, il reste pas moins quand même que, même devant le mariage civil, les gens reculent. La courbe des Pacs, qui est en train d'augmenter depuis quelques années en France, nous amène à devoir observer que bientôt il y aura plus de Pacs que de mariages, et les uns et les autres étant très peu comparés à ce qu'on appelle communément l'union libre, c'est-à-dire, bon, j'ai un compagnon, j'ai une compagne, et puis les choses sont bien comme ça, et puis tout est provisoire dans la vie, après tout.
Oui, si on regarde, je dirais, notre capacité humaine à nous aimer, tous les sociologues le disent, et puis c'est d'ailleurs prouvé par les statistiques, la durée moyenne de vie d'un mariage, c'est 10 ans. C'est-à-dire le temps de tomber amoureux, le temps de vivre ensemble et puis de commencer à se rendre compte que ben, nos caractères, un jour ou l'autre, se frottent l'un contre l'autre et qu'il y a des incompatibilités qui naissent. Donc la question du couple qui est en jeu, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces moments de difficulté où on passe d'une relation amoureuse à un vrai engagement d'amour qui est de dire j'accepte de donner ma vie pour l'autre, sachant que lui aussi la donne pour moi. Et mon objectif, c'est qu'il soit heureux, comme lui, son objectif, c'est que je le sois. Et donc, on va prendre les moyens pour dépasser ces moments difficiles. On va prendre les moyens pour aimer l'autre vraiment dans ce qu'il est, dans toutes les dimensions de ce qu'il est, y compris ses fragilités. Et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'en fait, on porte tous en nous ce désir d'un amour pour toujours, d'un amour fidèle, d'un amour unique. Ça fait partie, je dirais, de notre nature profonde. Tout homme et toute femme porte ce projet en lui. D'ailleurs, c'est confirmé par les études, mais ce n'est pas étonnant puisque c'est comme ça qu'on est fait quelque part. On a été créé comme ça. Et donc, cette aspiration-là, elle se bute à notre fragilité, notre péché, ce que l'Église appelle notre péché, c'est notre incapacité à aimer l'autre au-delà de nos propres besoins égoïstes. Et donc, dans l'amour, ça ne pardonne pas. Parce qu'à ce moment-là, eh bien, on se retrouve dans des difficultés où on ne sait pas comment les surmonter. Et à ce moment-là, on préfère se séparer que de souffrir inutilement, pense-t-on, parce qu'on ne s'aime plus. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'ils le disent. Donc, la question qui se pose, ça va être de dire, aujourd'hui, il faut évangéliser l'amour, c'est-à-dire qu'il faut laisser le Christ nous rendre capables d'aimer, et d'aimer au-delà de nos limites, au-delà de nos incapacités, au-delà de nos faiblesses. Et c'est ça que propose le sacrement de mariage, c'est ça que propose l'Église, c'est laisser le Christ faire en nous, au-delà de ce qu'on est capable de faire humainement.
Ce qui est vraiment, Maud souligne à la fois cette soif quasi généralisée de la famille, un homme, une femme, dans la durée, la fidélité, etc., et l'échec quasi généralisé que constatent très clairement nos sociétés. Et la parole de Jésus dans l'évangile de Matthieu 19 éclaire très clairement les choses. Quand à un moment Jésus fait référence que vraiment le mariage est inscrit à la Genèse, etc., etc., les apôtres même, ceux qui ont construit l'Église, ils ont dit, mais si jamais c'est ça, c'est même pas la peine d'y aller, quoi. Donc les apôtres eux-mêmes avaient la conscience de la très grande difficulté de réaliser un amour selon le dessein de Dieu. Mais Jésus a dit, effectivement c'est impossible, mais à Dieu c'est aussi possible. Et donc si vous accueillez Dieu dans votre amour, alors ça devient possible. C'est ça la grâce du sacrement de mariage.
Avec RCF, on n'est jamais seul.
Si la question de la fidélité fait l'unanimité dans la phase de désir amoureux, je veux dire, pour tout le monde, je veux dire, il n'est pas question non plus que la petite copine que j'adore, j'ai pas question que je la laisse de m'asseoir. Je pense que ça, c'est assez partagé. Mais est-ce qu'il n'y a pas une forme d'acceptation dans la société d'un échec programmé? Une forme d'acceptation en disant, ben oui, c'est comme ça, tout vieillit, un meuble, un vêtement, tout vieillit, y compris notre propre vieillissement, notre propre usure, elle est programmée quelque part.
Les gens, effectivement, sont tout à fait conscients de l'usure de l'amour, de l'usure généralisée de l'amour. Et ils sont très démunis par rapport à ça. Pourtant, ce n'est pas ça qui estompe leur attente profonde, essentielle, c'est une condition essentielle à l'amour, c'est la fidélité. Pour nombre de non-chrétiens, d'ailleurs. Et quand à un moment l'un dans le couple fait un accroc à cette fidélité, c'est d'une douleur absolument atroce. Donc ça montre bien que même si les gens à un moment se raisonnent, il y a quelque chose qui dans le cœur n'est pas acceptable. Parce que si jamais c'était accepté finalement, les gens, quand un homme ou une femme, se ferait trahir par son conjoint, pour son petit ami, ben, il vivrait cool. Et il ne vit jamais cool. Jamais cool. D'être trahi par son conjoint, c'est quelque chose qui est une douleur très intime et qui rejoint, qui illustre bien combien la fidélité et l'unicité de l'amour entre un homme et une femme s'est inscrit dans notre génétique anthropologique, si on peut dire. Et si on regarde les choses au niveau de la foi, dans une génétique théologique. C'est pour ça que la révélation ne vient pas se plaquer sur notre humanité, mais elle la révèle, elle en révèle toute l'intimité et les racines.
Donc si tout le monde s'habitue, autrement dit, ce que vous essayez de dire, c'est qu'on essaye de banaliser la situation. Or, on ne la banalise pas dans les cœurs, et on ne la banalise pas pour les enfants, qui souffrent toujours d'un couple qui se déchire, quoi qu'il arrive. Même si, quoi qu'on dise et quoi qu'on essaye de faire pour que ça se passe bien, l'enfant lui-même est bouleversé par cette déchirure. Donc l'idée, c'est plutôt de dire comment est-ce qu'on peut sortir de cette impasse. Et au lieu de s'habituer au fait que tous, on est malade, il vaudrait peut-être mieux chercher comment guérir.
Et quel est le médecin ?
Et quel est le médecin ? C'est quand même plus intelligent. Si on avait fait ça dans le monde, ah ben très bien, tout le monde attrape la rage ou je ne sais trop quoi, et ben on n'aurait jamais cherché à s'en sortir. Donc cette impasse-là, elle doit nous pousser à dire, maintenant, qu'est-ce qu'on déploie comme outil pour s'en sortir ? Alors certes, il y a des outils humains, la communication dans le couple, l'écoute mutuelle, nourrir son amour, prendre du temps pour l'autre. Voilà, tout ça, il y a plein de pistes qui existent aujourd'hui.
C'est bien.
Et c'est super parce que franchement, ça aide beaucoup de couples au moins à améliorer leur qualité relationnelle. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi que le couple accepte de se laisser rejoindre dans sa fragilité et de dépasser celle de l'autre. Et ça demande une force surnaturelle qui est celle que le Christ nous propose dans le sacrement de mariage.
Hommes et femmes, on fait tous expérience. On désire s'aimer, on désire se donner à l'autre, etc. Mais on fait l'expérience de nos limites. Et c'est là où la grâce de Dieu, où la parole de Jésus est très claire. Et bien, ce que vous ne pouvez pas faire de vous-même, je vais pouvoir vous aider. Je vais pouvoir vous aider à dépasser. Et c'est pour ça que nos aspirations sont grandes, mais nos limites aussi sont très grandes. Mais c'est pour ça que l'évangile de Cana et l'épisode de Cana est très clair. C'est que si on accueille Jésus, même si jamais le vin de l'amour va à tarir où il n'y a plus de vin, même de la flotte ou de la piquette, Jésus peut le transformer en vin meilleur que le vin du début des noces. C'est pour ça que c'est une grande... évangéliser le mariage, c'est pas d'abord recruter pour l'Église. On s'en fout réellement. C'est pas la question. C'est aider les personnes à grandir vers le bonheur auquel ils aspirent, mais qu'ils n'arrivent pas à atteindre. Et que Jésus vient rejoindre notre humanité, il vient travailler la guérison de nos cœurs, de nos âmes. Le pape François est tellement attaché à ça. Il dit qu'il faut qu'on retrouve une église qui permette à chacun de guérir son âme, de se réconcilier, de grandir, de se libérer, etc. Si on trouve ça, si on arrive à démontrer que Jésus libère l'amour, fait grandir l'amour conjugal et le fait durer, je peux vous dire qu'il y aura la queue à la porte des églises.
La vie, tout simplement, RCF.
Alex et moi, on se retrouve, on est, pour nos amis auditeurs, toujours sur RCF Vaucluse, à aborder un petit peu de la pastorale familiale, la famille et du mariage. Le synode qui arrive en octobre, il était attendu. Dieu sait s'il était attendu. Il y a des enjeux très forts.
Oui, il y a des enjeux très forts. D'abord, parce que effectivement, toutes les difficultés conjugales se prennent de plein fouet l'Église. Et contrairement à ce qu'on dit souvent, l'Église le sait très bien. Elle écoute. Elle n'est pas fermée à ses blessures, à ses souffrances. Elle les connaît. Elle les connaît mieux que tout autre, puisqu'elle-même est capable de décrypter l'âme humaine et l'attente de l'homme et de la femme. Elle le sait, la question c'est de savoir comment ça se passe dans une vie ecclésiale. Et la difficulté c'est que ce synode va traiter certes de questions pastorales, c'est-à-dire de questions internes à l'Église, mais il ne faut pas s'arrêter à ça. L'enjeu est beaucoup plus important que ça. L'enjeu, en particulier, c'est de déployer le magnifique enseignement de Jean-Paul II sur l'amour conjugal. Savez-vous que Jean-Paul II est le pape de l'histoire qui a fait l'homélie, si je puis dire, l'enseignement le plus long de toute l'histoire pendant 5 années complètes, tous les mercredis, sur le couple, l'amour humain, la sexualité, le corps. C'est le plus grand enseignement de toute l'histoire de l'Église. Et cet enseignement est absolument révolutionnaire parce qu'il donne justement la vision de tout ce à quoi le couple aspire, aussi bien dans sa communion, dans son corps à corps, dans son âme à âme, dans tout ce qui fait la dimension du couple. Et cet enseignement-là est très peu utilisé, très peu connu, n'est pas encore compris dans toute l'Église. Or, cet enseignement-là, c'est une bombe missionnaire. C'est ce que disait le cardinal Angelo Scola. Quand il sera connu, ce sera une bombe missionnaire. Pourquoi une bombe ? Parce que c'est une révolution complète qu'il nous propose. C'est de comprendre que l'Église a les secrets de l'amour et qu'elle est là pour justement nous permettre de vivre un amour en crescendo extraordinaire, ce à quoi nous aspirons tous.
Parce que ces catéchèses datent d'une vingtaine d'années maintenant, en gros, hein, si on se remet un peu en arrière.
30 ans
maintenant.
30 ans, on est mariés depuis 30 ans. Il a démarré ses catéchèses peu de temps avant notre mariage.
Donc, elles semblent ignorées ou en tout cas laissées de côté. Elles semblent, si vous dites qu'elles sont des bombes, effectivement...
Elles sont profondément méconnues.
Des bombes à retardement, excusez-moi.
Mais
oui. C'est des bombes à retardement et on espère que vraiment c'est une bombe, une grenade, et on espère que le synode va vraiment allumer la mèche. Et je pense que François, il a justement le ressort missionnaire, il a justement il n'a pas la langue de buis, il va vraiment au cœur des choses, et tout ce qu'il nous dit depuis son élection, depuis plus de 18 mois maintenant, c'est qu'il faut revenir à l'essentiel, il faut pouvoir montrer, illustrer concrètement comment Jésus sauve, libère, guérit. C'est pour ça qu'il dit « je veux que l'Église soit un hôpital de campagne après la bagarre ». Et effectivement, le document de synthèse qui a été fait pour le synode, qui a fait la synthèse de toutes les consultations, de toutes les conférences épiscopales du monde entier, des mouvements, etc., etc., ce document, c'est un tapis de bombes. Mais dans le sens, ça montre une bataille, un champ de bataille en ruine. La famille, la vie conjugale, la sexualité, etc., etc., est décrite de manière... Mais c'est un champ de bataille, c'est un champ de ruines. C'est-à-dire qu'il y a tellement peu de couples dans le monde qui arrivent à vivre, effectivement, le cœur de la révélation du mariage, et il y a tellement de couples, de personnes, de jeunes, etc., etc., qui sont fracassés, tellement blessés dans la vie familiale, la vie conjugale, la sexualité, etc., etc. Et donc, voilà, et ça, c'est l'héritage que nous avons. Et c'est cet héritage-là, ce monde-là, qu'il faut évangéliser et à qui il faut montrer, illustrer la puissance de renaissance, la puissance de vie qu'est l'évangile du mariage et de la sexualité. Et peut-être qu'on en reviendra un peu plus tard, c'est que le monde aujourd'hui a une perception spontanée que quand l'Église parle de sexe, de mariage, elle dit que des conneries et que le monde ne peut absolument pas la comprendre. Alors qu'au contraire, si jamais il y a bien un domaine dans lequel l'Église a une puissance bonne nouvelle qui peut rejoindre la grande majorité de nos contemporains, c'est sur ce domaine-là. Et donc, il y a un immense quiproquo. Et ce quiproquo, il a 2 ou 3 siècles.
Est-ce que c'est pas un quiproquo qui a été construit aussi par la catéchèse, quelque part ?
C'est-à-dire qu'on va reprendre ce qu'on disait déjà tout à l'heure. Ce quiproquo, il est dû au fait qu'on a mis en avant des règles sans en donner d'abord la sève. Et donc il faut revenir à la sève pour comprendre les règles. Et si on veut aspirer au bonheur, on sait aujourd'hui qu'il faut une certaine ascèse. Aucun alpiniste n'arrive au sommet de l'Himalaya sans avoir une certaine ascèse, sans avoir s'être entraîné, sans avoir fait une préparation importante. Or la difficulté, c'est qu'on pense que l'amour est spontané et ne nécessite aucun effort. Ce n'est pas le cas. L'amour se mérite quelque part. Et le bonheur va se chercher. Il se construit. Et il faut mettre de l'énergie pour ça. Une des choses qui est le plus importante à comprendre, c'est que, justement, parce que l'amour conjugal est la chose la plus importante de notre vie, sur laquelle tout s'appuie, nos enfants, notre vie sociale, souvent notre équilibre au travail, tout dépend de notre amour en couple, bien souvent. Eh bien, ça veut dire que si c'est premier, eh bien, on doit y consacrer le plus clair de notre temps, c'est-à-dire nous investir pour que cette relation soit fructueuse, grandisse, soit nourrie. Alors que jusqu'à présent, le monde considère que ça doit tomber du ciel, comme dans les films d'Hollywood, où on a le grand amour et tout va bien. Ça, c'est pas le réel, ça. Ça, c'est l'imaginaire. Et pour atteindre un grand amour où tout va bien, il faut passer d'abord par un labeur de conversion, comme on dirait nous, c'est-à-dire de travailler sur soi-même. Pour,
ce que disent les psychologues aussi,
voilà,
clairement.
Exactement, ils ne le disent pas avec ces mots-là, mais ils disent bien qu'il faut faire un travail aussi de relecture et de guérison de ses blessures. Eh bien ça, on a des milliers d'exemples, et nous sommes les premiers à en témoigner, à quel point la vie de foi guérit, la vie de foi libère, la vie de foi permet de donner des pardons qui nous lient, toutes sortes de choses qui sont des richesses, mais absolument inouïes. Alors le travail psychologique fait une part, et n'est pas à négliger, le travail spirituel en fait une autre, parfois les deux sont liés, ou sont en écho, mais quoi qu'il arrive, nous avons tous à faire ce travail de croissance pour être capables d'aimer.
C'est quelque chose, je veux juste porter un éclairage complémentaire, qu'on demande à un époux ou à une épouse, c'est normal de se donner du mal pour la vie professionnelle, c'est normal de se donner du mal pour nos enfants, c'est normal de se donner du mal par rapport à la vie sociale. Mais l'amour doit être spontané, l'amour doit être spontané, naturel, donc surtout j'ai aucun effort à faire. Mais ça c'est un mensonge total, c'est le romantisme occidental, etc. Et on a travaillé sur un parcours qui se développe pour évangéliser la vie conjugale, qui s'appelle le parcours Alpha Couple. Et le fondateur de ce parcours, ce sont les Anglais, et qui disent la vie conjugale doit être le premier investissement d'un époux et d'une épouse, avant le travail, avant les enfants, etc. Et donc ça montre bien que pour construire un amour durable, en crescendo, il faut mettre beaucoup de jus, beaucoup d'énergie.
Je suppose que cette vision-là intéressera beaucoup de gens.
Ah, mais c'est une attente immense, immense. Et à chaque fois qu'on le propose, même à des non-croyants, ils sont tous attirés par ce message. Attirés. Bon.
En tout cas, venant de l'Église et de responsables épiscopaux de la nouvelle évangélisation, ce n'est pas quelque chose qui est donné à entendre.
Le pape François a dit il faut changer nos méthodes. Il faut changer nos méthodes. Et il a un profil, avant d'être un catéchiste, c'est d'abord un missionnaire. Et donc, il nous faut partir sur les soifs existentielles des personnes. Et il nous faut annoncer l'Évangile en nous greffant sur ces soifs existentielles. Surtout en ne rabaissant pas la puissance, libératrice de l'Évangile, libératrice de Jésus. Jésus est venu nous sauver, nous libérer. Mais pour cela, il faut réussir à se connecter sur les soifs existentielles des personnes. Donc, nous, avec bien d'autres, c'est vrai qu'on est engagés dans l'évangélisation depuis 30 ans, et sur ces questions conjugales depuis pas mal d'années, et nous nous rendons compte que ce discours-là, même auprès des non-croyants, etc., il passe super bien. Et parfois, là où il passe le moins bien, c'est parfois dans les milieux d'église, où des gens, justement, sont très, très assis sur des convictions et des méthodes de pastorale familiale, etc., et qui sont très déstabilisés, parce qu'on ne leur a jamais appris ça. Et qu'effectivement, il faut travailler, il faut essayer d'apprendre à évangéliser. Et c'était un des évêques, président de la conférence des évêques de France, qui disait « Ah bah, catéchiser, c'est vrai qu'on sait très bien faire. Mais évangéliser, on ne sait pas faire. »
On ne sait plus faire, parce qu'on l'a fait.
Et c'est le cardinal Lustiger, peu de temps avant de partir, qui dit « Ah ouais, bah, l'Église en Occident, c'est un géant catéchétique et on est un nain kérigmatique, un nain évangélisateur. » Et donc, c'est tout cet apprentissage-là qu'il faut savoir faire. Et on espère vraiment que le synode, justement, avec l'aiguillon si précis et énergique du pape François, va justement remettre bien l'Église dans ce cadre-là, le remettre dans ce bon ordre. Commencer d'abord par les fondations, avant de construire le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième étage.
Je vous remercie l'un et l'autre de vous être prêté à cet enregistrement-là, ce travail-là. Je vous dis à une autre fois peut-être.
Mais avec plaisir.